Ouais, j'ai un souvenir où j'allais à la bibliothèque tous les samedis avec mes parents, à la bibliothèque Doré, je me rappelle. Et on allait chercher des bouquins, et à un moment donné, la bibliothèque s'est transformée en médiathèque, il y avait des CD. Et alors là, c'est là les premières fois où j'ai découvert des groupes un peu indépendants, qu'on n'entendait pas à la radio. Et j'adorais ça. J'adorais aller à la médiathèque et à la bibliothèque, à chercher des livres et puis chercher des CD. J'essayais de dénicher des groupes pas trop connus et tout, et dont j'étais fan après. Et puis bah là, maintenant, dans mon quotidien, bah, j'y amène mon fils. Alors, pas tous les samedis, mais de temps en temps. Et puis, il y a des sessions bébé lecteur auxquelles on participe, des petits ateliers pour les enfants. Et il y a des expos aussi. Enfin bref, c'est toujours un moment sympa, quoi. Un moment convivial, les gens sont sympas. J'ai gardé cette habitude que j'ai eue enfant et que je transmets là, du coup, à la nouvelle génération. C'est cool.
Alors moi, c'est par hasard, en fait, d'une certaine manière, que j'ai découvert les bibliothèques municipales, enfin, médiathèque d'ailleurs, de Jacques Demy à Nantes. J'avais un pote pour lequel je devais ramener justement des livres qu'il avait loués à la médiathèque. Je savais même pas que c'était un service disponible, et pour le dépanner, c'est ce que j'ai fait. Et en y allant, en déposant les livres, j'ai découvert justement tous les services qui étaient proposés, toute la richesse de lecture. Et quand j'ai déposé les livres, j'ai vagabondé dans les différents étages. J'ai vu justement la partie CD, et vu qu'il y avait des ordinateurs disponibles, j'ai vu qu'il y avait des personnes de tout âge qui étaient posées là à travailler, des étudiants comme des personnes âgées. Enfin, il y avait un véritable espace communautaire. Du coup, je suis devenue adhérente.
C'est vraiment une chance. On a plein de ressources à dispo et tout le monde n'est pas au courant, quoi.
On parlait d'inclusion numérique, de capacitation citoyenne. Ça commence justement par l'accès à la culture, à l'information, à la connaissance, et je trouve que les médiathèques contribuent totalement à ça.
Complètement. D'où l'intérêt d'interviewer trois personnes.
Pour cet épisode 39, nous avons été sollicités par le ministère de la Culture qui organisait les 7 et 8 mars dernier deux journées professionnelles à Nîmes sur le numérique en bibliothèque, avec pour thème le numérique responsable, acceptable, soutenable en bibliothèque. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, nous avons découpé cet épisode 39 en trois parties.
Déclic responsable.
Sharing is caring.
Pour commencer, on a demandé à notre invitée Mélanie de se présenter.
Ah oui, bien sûr. Alors, je suis Mélanie Lotorek, je suis responsable du développement numérique à la Bibliothèque municipale de Lyon. Je fais partie aussi du réseau des référents transition écologique de la ville. Je travaille depuis plus de 10 ans, hein, sur les enjeux du numérique en bibliothèque, et en particulier en bibliothèque municipale. Alors moi, j'ai une formation scientifique en histoire des sciences et des techniques. Et donc le numérique, ça fait vraiment écho dans toutes ces dimensions à cette formation initiale qui combine un peu sciences exactes, sciences sociales. Et ça m'intéresse également parce que, un peu contrairement aux idées reçues qui associent les bibliothèques à des collections imprimées comme le livre ou les revues, ces établissements reposent en fait massivement sur des outils informatiques et numériques qui sont incontournables pour déployer nos services. Donc je pense au catalogue, au site internet, à la presse en ligne, à la VOD. On propose aussi, enfin pas à l'ABM de Lyon, mais dans beaucoup de bibliothèques, des livres numériques, des collections numérisées. Et on met aussi à disposition du matériel, des ressources dans les espaces physiques. Et donc, en bibliothèque, on développe continuellement des services numériques pour répondre aux besoins des usagers, aux besoins des agents. Bah, c'est une note de service qui, en plus, s'articule avec une tendance qui est que les services publics sont pensés depuis plus de 10 ans sous la forme de la dématérialisation. Donc c'est un peu tous ces enjeux-là qui viennent se percuter en termes de numérique dans les bibliothèques.
On a ensuite cherché à savoir quel était le cheval de bataille de Mélanie en ce qui concerne le numérique en bibliothèque.
Mon cheval de bataille, bah, depuis que j'ai pris ce poste à l'ABM de Lyon, Je développe toute une réflexion et puis aussi un mode de faire autour de la sobriété numérique, autour des enjeux environnementaux du numérique. Donc ça nourrit pas mal mon action professionnelle. En fait, il se trouve que le secteur du numérique, il ne fait pas partie des secteurs qui sont documentés dans les rapports du GIEC. C'est un secteur qui est considéré comme un secteur support. Et donc, quand on enregistre les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la production de composants électroniques, en fait, par exemple pour des voitures électriques, en fait, ils sont enregistrés dans un secteur qui est le secteur automobile. Mais tout ce qui est composants qui viennent supporter les infrastructures réseau international, en fait, ils sont pas documentés en tant que tels. Et donc, c'est un vrai sujet qui est un petit peu invisibilisé aujourd'hui dans les discussions sur les enjeux environnementaux, alors que la plupart des observateurs, des observateurs de l'impact environnemental comme l'ARCEP en France ou le CHIC Project, estime que c'est un secteur dont les émissions vont cesser de croître jusqu'à doubler en 2050, voire même en 2025, je crois. Le rapport du CHIC Project, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en 2025. Donc c'est vraiment énorme. Ce qui est assez visible dans les bilans carbone du numérique, c'est qu'en gros, dans l'analyse du cycle de vie, on voit que c'est le matériel qui représente entre 78 à 80% des émissions. Et donc, si on veut agir, eh ben, il faut agir sur le matériel. Donc, agir pour justement réduire ses émissions en faisant durer, en maintenant tout le matériel qu'on utilise. Et pour moi, c'est important de donner à voir cette analyse-là, en interne, mais aussi auprès des publics, parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup autour des usages. Donc, on entend beaucoup parler d'un discours qui est un peu culpabilisant à l'égard des utilisateurs du numérique, puisqu'on parle beaucoup de streaming vidéo, par exemple, comme d'un responsable. Enfin, voilà, c'est ce qui resterait responsable des excès, entre guillemets, de cet usage. Mais dans les faits, en fait, c'est surtout le fait qu'on, par exemple, qu'on change de portable tous les 2 ans, de téléphone portable, qu'on jette au lieu de réparer, qu'on s'intéresse pas à ce qu'il y a vraiment dans la boîte, hein, je veux dire dans l'ordinateur, dans le téléphone, dans n'importe quel appareil connecté. C'est cette mise à distance en fait du matériel qui fait qu'aujourd'hui on a une croissance de ces usages numériques. Mais il y a tout aussi un échec du recyclage. Il y a une forme de bonne conscience en fait que chacun s'achète en se disant bah ça va être recyclé, alors qu'en fait le numérique c'est pas du tout recyclé. Il faut aller voir ce que deviennent entre guillemets les matériels de ordinateur, téléphone portable, trottinette connectée, enfin tout ceci finit dans la nature. Donc on sait qu'il y a 40% de recyclage en Europe et c'est le maximum qu'on peut faire dans le monde, sachant que la moyenne internationale c'est 17%. Donc tout finit quelque part, on ne sait pas où, et comme on ne le voit pas, ça ne nous intéresse pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de visibiliser cette consommation, cet usage du matériel, et de ne pas culpabiliser les gens sur l'accès qu'ils peuvent avoir aux informations, à la culture, via le numérique. Puisqu'en plus, ce qui nourrit, entre guillemets, ce qui alimente les tuyaux, ce sont souvent des consignes culturelles. Donc voilà, c'est de vraiment travailler sur ces deux aspects. Ce que j'avais envie de rajouter également sur cette question du matériel, c'était le fait qu'il fallait, en bibliothèque justement, il fallait qu'on arrive à donner confiance aux usagers sur leur capacité à réparer. Et donc à prendre le risque aussi d'échouer. Et donc faire en sorte que toutes les politiques aujourd'hui qui sont en faveur de la réparation, de l'achat aussi en reconditionné, elles soient comprises et elles soient mises en acte. En fait, il faut quand même rappeler que c'est assez compliqué aujourd'hui de se lancer dans le reconditionné ou dans la réparation, parce que il suffit pas de réparer le hardware, il faut aussi qu'en face, on ait des softwares, en fait, des logiciels qui soient capables de continuer à tourner sur du matériel, en fait, qui est plus ancien. Et aujourd'hui, c'est aussi, je pense, ce combat-là qu'il faut réussir à mener. Alors, il y a une personne qui s'appelle Agnès Kruper, hein, qui est IT de Fairphone, et qui l'explique très bien, en fait, qui montre très bien comment les discussions au niveau européen échouent parce que justement l'obsolescence logicielle qui est imposée par les GAFAM, en fait, elle permet pas du tout aux acteurs de reconditionner ou d'objets numériques réparables d'agir suffisamment, de proposer en fait des supports qui soient suffisamment compliant, enfin compatibles, pour que ça soit efficace tout de suite. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une lutte au niveau aussi de l'ouverture entre guillemets des données, de certaines données de logiciels indispensables, hein, comme les logiciels des smartphones, pour que on arrive vraiment à faire levier et à convaincre le grand public, la grande consommation, qu'on peut aller vers la réparabilité. Après, bon, il y a aussi les logiciels libres, hein, qui permettent de faciliter, entre guillemets, la durabilité, enfin, de faire durer nos matériels. Et donc, voilà, de rechercher des solutions un peu alternatives, à la fois en tant qu'individu, mais aussi au sein des institutions. Il faut qu'on soit capable aussi de se réorganiser pour que on mette à disposition des logiciels qui sont alternatifs, ou des supports qui soient alternatifs pour le public. Et que ça soit pas vu comme un parcours qui soit militant, mais plutôt comme quelque chose d'assez commun. Je dirais, en fait, il faut que maintenant le reconditionner, la réparation, ça soit quelque chose qui rentre vraiment dans les mœurs.
Pour aller plus loin, on a demandé à Mélanie de nous donner des exemples d'actions concrètes menées auprès du public des bibliothèques et médiathèques.
Alors moi, j'organise depuis 2021 un cycle de conférences autour de la sobriété numérique, mais aussi de la low-tech et aussi des alternatives au numérique. Donc ce sont des conférences qui s'appuient sur, par exemple, des acteurs clés du Green IT, Agnès Crippet de Fairphone, Frédéric Bordage, qui est un des cofondateurs du Green IT. Mais on a aussi invité des journalistes d'investigation comme Guillaume Pitron, des chercheurs du collectif GDS Eco-Info, ou alors de Mine Paris PSL comme Jérôme Denis, David Ponty, qui sont des sociologues qui s'intéressent à la question de la maintenance. Plus récemment, on a invité l'Atelier Paysan, qui est un collectif qui est intervenu sur la question de l'agriculture connectée, donc sous une forme de dénonciation, et donc qui venait percuter complètement l'actualité, puisqu'on était en pleine mobilisation du monde paysan. Et ce qui était vraiment intéressant dans ces conférences, c'est qu'en fait, elles intéressent, elles rassemblent beaucoup de monde. On a la chance d'avoir beaucoup de publics à ces rendez-vous. Et des publics qui sont un peu atypiques en bibliothèque, puisque bon, la fréquentation en bibliothèque, elle est très féminine. Et là, ben, pour le coup, on a des publics qui sont beaucoup plus masculins, plus jeunes, intergénérationnels. Et donc, en fait, c'est agréable de voir qu'on arrive à toucher assez largement des usagers qui, voilà, qu'on ne voit pas toujours en bibliothèque. Et en plus, ça rassemble, ça nourrit, les débats sont assez nourris parce qu'on a à la fois des gens qui sont très curieux, mais aussi des experts. On a même des acteurs du secteur privé qui souvent viennent à ces conférences. Et donc, c'est très stimulant, en fait, d'avoir cette palette de citoyens. Et de voir leur intérêt sur les questions de sobriété. Et on voulait retrouver ces conférences sur le site de l'ABM dans l'onglet numérique. Et puis, en parallèle, on a aussi des ateliers numériques qui sont proposés dans les 12 espaces numériques du réseau BML. Donc des ateliers qui vont parler de l'entretien des PC, des bonnes pratiques du numérique, mais pas toujours directement en fait du sujet de la transition transition écologique du numérique, parce que ce qu'on observe, c'est que souvent quand on veut aborder frontalement ce sujet, les usagers sont pas très intéressés, enfin c'est un peu perturbant, et donc il faut mieux partir d'une expérience, vraiment se connecter à leur quotidien pour aborder cette question, en fait. Et pour moi, ce qui est très intéressant dans cette question de la médiation de la sobriété numérique, c'est que, en fait, on s'intéresse au savoir-faire. Alors qu'en bibliothèque, on a souvent, enfin, dans les enquêtes hein, qu'on fait, les usagers perçoivent quand même souvent les bibliothèques comme des lieux de savoir, et pas forcément de diffusion ou d'échange pair à pair. Et donc, l'idée dans ces ateliers numériques, c'est plutôt de mobiliser aussi des savoir-faire, et de valoriser tout ce qui peut être lié aux actions manuelles. Et donc, ce qu'on espère mettre en place dans les années à venir, parce que là, on l'a pas fait directement, on a fait des ateliers, par exemple, où on ouvre les ordinateurs, on regarde comment ça fonctionne, comment les réparer, etc. mais pas beaucoup en fait. Et là, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment en collaboration avec des associations comme l'Atelier Soudé, que vous connaissez peut-être, vraiment d'inviter nos usagers à réparer leurs ordinateurs, leurs téléphones portables, à leur montrer comment ça peut bien se passer. Et que ça repose aussi sur le fait qu'on se fait confiance, qu'on fait confiance à d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Et donc, je trouve que ce sont vraiment des actions très capacitantes. Ça donne vraiment du pouvoir et ça montre qu'on peut y arriver à plusieurs. Et donc, c'est très positif, en fait, pour se saisir des enjeux un peu des irritants du numérique, parce que je crois qu'on a tous cassé nos téléphones plusieurs fois dans notre vie. Et c'est très, très irritant. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est dans notre Fab Lab, on a un Fab Lab à l'ADM de la Cassagne, on répare, on produit, on fait beaucoup de... Enfin voilà, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées le jeudi dans le cadre d'un atelier qui s'appelle l'atelier Bidouille et qui permet à chacun de s'approprier les outils du Fab Lab, les imprimantes 3D, les découpeuses, des choses comme ça.
On a ensuite cherché à comprendre comment elle embarquait ses équipes en interne sur le sujet de la sobriété numérique.
On fait partie d'un, au niveau national, il y a un réseau, entre guillemets, de ce qu'on appelle les bibliothèques numériques de référence. Donc, c'est un programme qui est piloté par le ministère de la Culture et qui permet à des bibliothèques qui souhaitent développer leur service numérique, en fait, de disposer de financement. Et donc, nous, on avait déposé un programme en 2020, qui a un axe, l'axe 5, qui s'appelle construire une stratégie politique de sobriété numérique. Et donc, dans cet axe-là, il y a toute une partie qui concerne justement les formations et surtout qui aborde la question de la mutualisation et de la durabilité du matériel. Donc, nous, on a un parc informatique de plus de 500 postes. Donc, l'idée, c'est de le remplacer, par exemple, en reconditionné. Ça doit faire partie des objectifs de l'organisation. Et puis, en parallèle, c'est aussi la question de la mutualisation, puisque là, j'ai parlé du matériel, du fait qu'il fallait que ça dure. Donc aujourd'hui, en moyenne, dans le public, les postes informatiques, ils sont gardés 6 ans, en fait. Et l'idée, maintenant, c'est de les faire durer jusqu'à 9 ans. Donc, c'est pas simple, parce qu'en fait, ça implique de changer complètement les pratiques dans les services informatiques, les DSI, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de réparations qui soient réalisées sur les postes. Mais c'est aussi de mutualiser, c'est-à-dire qu'au lieu de racheter du matériel, en fait, on fait en sorte de le mettre à disposition en faisant tourner sur le réseau. Et là aussi, en fait, c'est pas neutre en RH, c'est-à-dire que si on veut que le matériel tourne, qu'il soit mutualisé, il faut qu'il y ait des agents qui soient capables de vérifier qu'il est toujours en état, de le réparer, de le faire tourner, de le localiser, de rendre possible cette espèce de logistique du matériel. Sachant qu'à l'ABM, pour vous donner un exemple, on a plus de 300 tablettes, on a, j'ai parlé des plus de 500 postes, on a beaucoup de mécatronique, on a du matériel, de la robotique, on a des PC gamer, on a des Fab Labs, donc on a beaucoup, beaucoup de matériel. Et donc l'idée, c'est vraiment de bien documenter ce qu'on en fait et sa destination et aussi de faire en sorte qu'il soit maintenu. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que, il faut pas hésiter à aller soit regarder la conférence là de Jérôme Denis et Fabrice Pontier qui ont travaillé sur. Qui sont intervenus sur une présentation de leur ouvrage « Le soin des choses ». Et c'est vraiment très, très, très intéressant de voir aujourd'hui un peu le changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'a vraiment pas du tout interrogé la question de la maintenance. C'est comme si la maintenance des choses, c'était une forme de... C'était anti... C'était pas progressiste, entre guillemets. On était toujours dans une logique qui consistait à construire comme si l'innovation, c'était toujours la nouveauté. Et maintenant, je trouve qu'on est en train de vraiment de basculer où on voit que c'est justement le fait de maintenir, le fait de faire durer, le fait d'être dans cette logique du care qu'on progresse, en fait. Et on met plus l'énergie à détruire et reconstruire, mais on met plutôt notre énergie dans le fait de faire durer, de profiter de ce qui existe déjà. Et puis, en ce moment, on a aussi un autre petit sujet, puisqu'on est en train de refondre notre site Internet. Et donc, on a ambition de l'éco-concevoir. Et donc, on va proposer une formation en éco-conception de sites web et de services web à un ensemble d'acteurs du site Internet, puisqu'on prend en compte la chaîne de production des contenus, de services informatiques, services web, jusqu'au producteur final de contenu, qui sont des agents qui vont rédiger des articles, proposer des articles pour le site. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils dialoguent sur ces questions-là, qu'ils pensent ensemble à la fois l'aspect technique, mais l'aspect aussi écrit, en fait, toute la partie vraiment d'écriture dans ce site, puisque pour que ce soit éco-conçu, il faut que ça dure aussi dans le temps et qu'on maintienne un certain degré de rigueur, en fait, dans l'alimentation et la maintenance de ce site. Plus globalement, sur les questions du numérique, moi, il me semble que finalement, on a une responsabilité en tant que responsable en bibliothèque, c'est de considérer que la fracture numérique telle qu'elle existe dans le grand public, ben, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente en bibliothèque. Ce qui veut dire que concrètement, parmi les 450 agents de la BM de Lyon, il y en a sûrement proportionnellement autant qui sont éloignés du numérique que dans la société. Et donc, si on veut faire progresser l'organisation, on a l'obligation de faire progresser aussi tous les agents qui seraient aujourd'hui en défaut de compétences numériques. Donc, si on veut les acculturer sur la sobriété numérique, il faut les acculturer sur le numérique en général. Donc, il faut faire en sorte qu'on soit capable d'identifier leurs besoins de formation sur toute une palette en fait d'outils et de services numériques. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'important et sur lequel il faut qu'on fasse des propositions aussi aux collègues.
On est ensuite passé à nos questions fil rouge, les questions qu'on aime poser à chacun et chacune de nos invités. Et pour cette première question fil rouge, nos invités de ces épisodes 39 étant bibliothécaires sont logiquement les mieux placés pour y répondre. On a donc demandé à Mélanie des conseils d'ouvrages à lire pour aller plus loin sur le sujet de la sobriété numérique.
Alors moi, je ne partage pas du tout la vision pronucléaire de Jean Covici, je tiens quand même à le dire, mais quand même, je conseillerais la BD Le Monde sans fin, qu'il a écrite avec Christophe Blain, parce que d'abord je la trouve très pédagogique, elle est facile à lire, elle vulgarise vraiment avec talent la question des limites planétaires des ressources énergétiques. Et je trouve que c'est quand même une porte d'entrée sur les enjeux du numérique parce que aujourd'hui, si on n'a pas d'énergie, on produit pas de microprocesseurs, on n'a pas de transport, on n'a pas de refroidissement de serveur, on n'a pas de recyclage, on n'a pas de stockage. Et en fait, cette BD, elle montre bien les limites de notre système économique qui est quand même basé sur nos modèles hyper productivistes alors qu'on voit que les ressources, elles vont finir par manquer. On peut regarder aussi les scénarios de l'ADEME qui montrent qu'aujourd'hui, si on veut maintenir notre niveau de, si on continue à alimenter la chaîne par exemple de la voiture électrique, il nous faudra 10% du lithium mondial alors qu'on n'en produit que 1%. Donc à un moment donné, il va y avoir un effet ciseau qui va faire que on va pas du tout être aligné entre les moyens et les ambitions. Et donc je trouve que cette BD, elle pose bien le cadre. Alors après, moi j'aime beaucoup le travail d'enquête de Guillaume Pitron aussi, qui permet de aussi s'acculturer à cette problématique de l'accès aux métaux rares qui est pas l'ANI. Et puis, dans un registre un peu plus de fiction, j'essaie personnellement de lire pas mal d'auteurs de SF, parce que je trouve que ce sont dans ces imaginaires-là qu'on trouve les pistes vraiment pour vivre avec notre présent, mais aussi dans une perspective d'imaginer ce que pourrait être le futur. Et en ce moment, donc je lis justement Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson, qui est un ouvrage vraiment très très intéressant pour imaginer ce que pourrait être un monde d'après. Et alors dans un monde un peu plus dystopique, toujours en SF, moi je suis une grande fan de Serge Lehmann, la trilogie Faust. Bon, c'est un monde où la technologie contrôle tout, ou presque, parce que justement, il y a des territoires qui y échappent et comment... c'est vraiment un espace d'affrontement entre plusieurs idéologies. Donc, ça montre bien que la technologie, elle est politique, que c'est pas une fin en soi. Que ça reste aussi un moyen pour déployer certaines politiques. Donc, je trouve cet ouvrage qui est ancien, hein, qui est un des ouvrages aussi inspirants pour Damasio, hein, que vous connaissez sûrement. Et puis, même si je travaille en bibliothèque, finalement, on n'a pas toujours le temps de lire 400 pages. Hein. Et donc, découvrir des podcasts, ben, c'est aussi très, très intéressant, très agréable, en fait, pour s'intéresser au numérique. Alors, forcément, je vais recommander votre podcast. Mais il y a aussi Présage d'Alexa Soyeux, que je trouve très bien, ou Sismic, hein, qui a proposé quelques épisodes, en fait, sur le numérique, autour des questions des algorithmes, le technofascisme, etc. Et puis, on peut aller regarder du côté des éditions Divergence qui ont quasiment, énormément, énormément d'auteurs, que ce soit sur la low-tech, le Bitcoin. Enfin, c'est vraiment une maison d'édition qui est assez, assez fascinante, en fait, en termes de publication. Et j'aime beaucoup la collection Anthropocène aux éditions La Découverte, je crois. Ce que je peux recommander, le magazine Social Terre aussi, qui est quand même vraiment bien quand on s'intéresse. Question du numérique, mais pas que, parce que je pense qu'on ne faut pas non plus fonctionner en silo. Il y a vraiment un besoin d'aller chercher dans des domaines à la fois proches ou plus ou moins proches, en fait, des sources d'inspiration. À ce sujet, d'une certaine manière, alors c'est un peu paradoxal, mais l'atelier paysan, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils font pour le monde agricole, hein, puisqu'ils se réapproprient toutes les low-tech, entre guillemets, hein, pour faire court, hein, même si ça leur plaît pas, ils parlent de low-tech. Ils proposent des machines très, très low-tech à souvent des paysans qui sont sur des petites exploitations. Et ils inventent vraiment une autre forme d'exercice, en fait, de l'agriculture, hein, par cette réappropriation des moyens techniques. Et c'est la fin en soi, c'est pas seulement de proposer des outils qui soient à la propriété, et puis aussi des paysans qui peuvent les réparer très facilement, mais c'est aussi d'envisager l'agriculture sur leur territoire d'une façon très personnalisée, sans contrainte qui viendrait des banques ou des céréaliers ou des producteurs d'intrants, puisque ça s'adresse plutôt à des agriculteurs de l'agrobiologie. Voilà, ça montre aussi que le numérique, on peut le remplacer par autre chose, en fait. C'est pas une fin en soi.
On lui a ensuite demandé quel usage elle fait du numérique au quotidien.
Qu'est-ce que je fais au quotidien? Forcément, j'ai un ordinateur. Je suis un peu restée en mode PC, je dirais. Mais après, j'ai forcément aussi un smartphone. Hein, je suis pas sur le Nokia 5680, c'est ça. Mais j'en fais quand même un usage aussi modéré et pragmatique que possible. Donc, je dirais que je suis un peu une hygiéniste du numérique. En fait, je sélectionne vraiment mes sources. Publie très peu de données personnelles, rien sur moi, rien sur ma famille, j'ai pas de télé. J'essaye de faire réparer, de réparer aussi notre matériel informatique et numérique, même si on essaye d'en avoir le moins possible. En fait, ce qui est étonnant, c'est quand on parle un peu de cette addiction au numérique, c'est que souvent, moi, j'ai l'impression que le numérique, il prend trop de place quand on laisse pas d'autres projets survenir dans nos vies. Donc, je trouve que consommer de la musique, découvrir, aller au cinéma, se faire des expos, lire forcément. En fait, le fait de faire une expérience quand même du réel dans le rapport qu'on veut avoir au monde, ça limite toujours la place du numérique dans notre vie. Et donc, c'est quand on nourrit aussi une forme d'activité forcément collective que tout d'un coup, cette espèce d'hyper-dématérialisation du monde, elle est beaucoup moins présente dans nos vies. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'essayer de repérer finalement des prescripteurs qui sont vraiment experts, parce qu'on voit beaucoup de gens qui passent leur temps à scroller des masses de contenus, en fait, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont très invasifs, en fait, dans notre quotidien. Alors qu'en fait, il existe forcément la presse indépendante, des acteurs du monde culturel, même les bibliothécaires. Hein, c'est ce que les gens attendent, hein, beaucoup en bibliothèque, c'est des sélections, c'est des prescriptions. Aller voir des chercheurs, des lanceurs d'alerte, en fait, tous ces acteurs-là sont des spécialistes qui apportent des éclairages très intelligents sur le monde.
Et c'est la dimension, je dirais, très positive du numérique, c'est qu'aujourd'hui, si on sait chercher l'information, on peut repérer des contenus qui sont vraiment de qualité, on fait des super découvertes et on gagne du temps au lieu d'en perdre, hein, parce que le numérique, c'est aussi très chronophage. Donc voilà, j'essaye d'être dans cet usage, je dirais, assez intense, mais très corporatif, entre guillemets, du numérique et des contenus qui sont déposés.
Mélanie étant engagée sur le numérique responsable, on lui a demandé de nous partager ses gestes de sobriété numérique.
Je repense à l'ordinateur là sur lequel grâce auquel je vous parle. Donc il y a un ordinateur qui aurait dû déjà deux fois partir à la casse, hein, qui fait l'objet de multiples sarcasmes de la part du service informatique, mais que j'arrive systématiquement à ressusciter. Et en fait, ça vient aussi du fait que je trouve que, on en revient à la question du recyclage, mais aujourd'hui, dans les grandes organisations comme la ville de Lyon, nos interlocuteurs, ce sont des prestataires qui ont une charge de travail qui fait qu'ils veulent résoudre le plus vite possible le nombre de tickets qui leur sont remontés, le ticket Narcino. Et en fait, si on n'a pas un dialogue un petit peu construit avec eux, si on ne s'intéresse pas de près à comment fonctionne un ordinateur, leur premier réflexe, ça va être quand même de dire cet ordinateur, il date de telle date, il a été amorti, donc maintenant on va le jeter, on va le remplacer. Du coup, quand on s'y connaît un petit peu en informatique et qu'on commence un petit peu à discuter, on se rend compte que à ce moment-là, on commence à être écouté et on se rend compte qu'on peut nous-mêmes avoir une analyse, en fait, qu'on n'est pas seulement dépendant de notre interlocuteur qui est expert sur les questions informatiques, qu'on peut l'accompagner ou en tout cas négocier, entre guillemets, avec lui la réparabilité de l'appareil sur lequel on travaille. Et moi, c'est exactement ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait c'est cette montée en compétence, en fait, qui permet aux usagers, qu'ils soient grand public, agents du secteur privé ou n'importe où, c'est cette montée en compétence sur le domaine du numérique qui va faire en sorte qu'on va pouvoir un peu basculer dans un monde où on envisagera la réparation plutôt que le pseudo-recyclage. Et en fait, c'est quand même un paradoxe dans notre monde hyper informatisé qu'aujourd'hui, il y a une forme de confiscation de cette compétence-là par un secteur qui est celui des IT, en fait, des technologies de l'information, et aussi un secteur qui est très ingénieur, entre guillemets. Et aujourd'hui, je crois que cette vision de l'ingénieur, où on va toujours être en mode projet, une vision qui est un petit peu justement contestée par des auteurs qui aujourd'hui prônent le renoncement, comme Alexandre Renard. Je crois que cette question du projet permanent ou du fait d'être toujours un feu dans l'idée de remplacer, de faire du neuf, etc. Pour moi, c'est ça la sobriété numérique. C'est qu'à un moment donné, on interroge ce circuit qui veut qu'on produise tout le temps et qu'au contraire, on fasse plutôt avec ce qu'on a en essayant de faire durer et puis aussi de se former au passage sur les outils qu'on utilise au quotidien.
Enfin, on a cherché à avoir sa vision de l'avenir du numérique dans le monde.
C'est l'oracle de Delphes. Alors, c'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours l'impression qu'on vit dans un monde où l'envahissement du numérique, la dématérialisation, elle semble infinie. Et pourtant, moi, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à un plafonnement des usages. On arrive à un moment où il n'y a plus vraiment de nouveautés. Alors, c'est vrai qu'on voit arriver la domotique, l'IoT, l'Internet des objets qui commence à se manifester aussi dans les foyers, en fait, dans les maisons. Enfin, il y a cette espèce de mythe de la maison connectée. Alors que la ville connectée, on en est un peu revenu, hein, en tout cas à Lyon. Et moi, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à un plafonnement des usages et une reconnexion, une recherche de reconnexion au réel, à l'expérience. Alors, on sait que l'expérimentation du virtuel, c'est sympa. Enfin, ça parle à beaucoup de gens. Hein. Il y a, par exemple, nous, on fait de la VR à la BM avec des seniors. C'est vraiment des expériences incroyables pour eux. Quand on est une personne âgée en EHPAD, de plonger avec des baleines, c'est incroyable, quoi.
mais je trouve que finalement, il y a beaucoup de contenu numérique ou de virtualisation qui ne font que reproduire un monde où les inégalités sociales, finalement, elles se maintiennent. Et cette dimension-là, elle n'est pas très attractive. En fait, je pense qu'on va arriver finalement un peu aux limites de l'envahissement du numérique. Parce que le numérique, ça reste toujours finalement un écran qui fait écran. Donc, je pense que les citoyens, voilà, tout le monde a besoin de se reconnecter plutôt au monde qui nous entoure. Et la modernité, ça sera plutôt savoir poser des limites à l'envahissement du numérique, de savoir réguler sa place dans nos vies. Il y a quand même des espaces qui aujourd'hui étaient encore un peu vierges de numérique. Je pense à l'école, qui commence même au niveau primaire à être envahie par cette question, hein. Comme s'il fallait absolument en mettre partout. Donc moi ça me questionne un peu. Je trouve que ça va trop loin. Et d'ailleurs j'essaye régulièrement de faire en sorte que le numérique ne soit pas trop présent à l'école dans les écoles de mes enfants, en étant un petit peu très technocritique sur la place du numérique dans ces écoles. Et puis forcément on a vu arriver l'IA. Et donc là, j'en profite un peu pour vous partager cette réflexion de Gauthier Roussil, qu'on va recevoir bientôt en conférence, qui me disait qu'en fait, pour lui, c'était juste une bulle économique, l'IA, et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de gains économiques pour les acteurs de l'IA. Il y avait des prêts, des financements qui étaient opérés par les banques, mais il n'y avait pas vraiment de bénéfices qui apparaissaient. Et en plus, il y avait un tel envahissement hors de tout cadre légal qu'on peut s'attendre finalement à une régulation à venir de ce secteur comme de tous les autres secteurs numériques avant lui. Et je trouve ça assez rassurant parce que d'une certaine manière, on voyait arriver tous ces outils d'intelligence artificielle comme si tout allait être une fois de plus, entre guillemets, accaparé par ce type de technique. Et qu'on va en revenir à des ressources beaucoup plus pragmatiques, en fait, pour le quotidien.
Dans cet épisode, Mélanie nous parle de réappropriation des moyens techniques. Selon elle, la sobriété numérique passe par une connaissance des outils, mais aussi par une véritable compétence de maintenance et réparation des équipements. Cette maîtrise pourrait permettre d'alimenter notre imaginaire collectif afin de réinventer la manière de concevoir et d'utiliser la tech, pour favoriser la mutualisation et la durabilité. On espère que cet épisode t'a plu. On revient bientôt avec de nouveaux épisodes. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffaine Brigand et Perrine Tanguy ou sur les pages LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite de passer une belle journée et si toi aussi tu souhaites faire partie de la solution, on t'invite à regarder si ta bibliothèque ou médiathèque du coin propose des ateliers pour apprendre à réparer tes équipements numériques. À très vite !